Le journal Olivier Zano.
Bonjour, deux trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés à Moutiers. Des stupéfiants ainsi que de l'argent liquide ont été saisis. Explication en ouverture de cette édition. Malgré le temps maussade et les inondations, la région a vécu une belle année 2021 sur le plan touristique. Elle le doit aussi au dynamisme de plusieurs acteurs privés et d'institutions. On en parle dans quelques instants avec Guillaume Davot, directeur de Jura Bernois Tourisme. Une page se tourne dans le Jura pastoral, vicaire épiscopal. Depuis 2012, l'abbé Jean-Jacques Teria a présenté sa démission au 31 juillet prochain. Deux laïcs ont été nommés pour le remplacer. Et du côté du ciel, tout se passe pour le mieux aujourd'hui. Le soleil brille sur la région, même si quelques grisailles sont encore possibles, notamment sur le Seeland. Les températures sont fraîches, elles ne dépasseront pas les 4 à 5 degrés. La nouvelle est tombée ce matin. Deux hommes ont été pincés à Moutiers pour trafic de drogue. C'est ce qu'a annoncé la police cantonale bernoise. Les deux trafiquants présumés devront répondre de leurs actes devant la justice. De l'argent liquide et des quantités importantes de stupéfiants ont été saisis. Diana Dacosta.
2 kilos d'amphétamine, quelques 700 grammes de MDMA, plus de 2000 pilules d'ecstasy, 90 grammes de cocaïne et plusieurs autres produits en petite quantité. C'est la fin d'un vaste trafic de stupéfiants basé à Moutiers, qui fournissait des clients dans tout le Jura bernois, les cantons du Jura, de Neuchâtel, de Vaud, mais aussi du Valais. Selon un communiqué de la police cantonale, les deux hommes âgés de 40 et 42 ans ont été interpellés à leur domicile prévotois les 2 et 4 février de l'année dernière. Ils étaient soupçonnés d'avoir organisé un trafic de drogue pendant près de 2 ans. Ils ont finalement reconnu en partie les faits qui leur sont reprochés. Les deux délinquants présumés sont sortis de détention provisoire en novembre dernier. Ils doivent entre autres répondre d'infractions à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent.
Merci Diana. La police cantonale bernoise indique aussi que 3 autres personnes ont également été dénoncées dans le cadre de ce coup de filet. L'été pluvieux et les inondations en 2021 n'ont pas eu raison de l'engouement touristique suscité par le Jura bernois. Les activités de loisirs ont enregistré une fréquentation en hausse, plus 42% pour le Siki Park par exemple. L'hébergement suit la même tendance tant dans l'hôtellerie que dans les campings. Le bilan est moins réjouissant ce qui concerne la restauration et la navigation. La crise sanitaire et les inondations ont laissé des traces. Reste que le directeur de Jura bernois Tourisme, Guillaume Davot, se montre globalement satisfait de l'année 2021. La région bénéficie d'un dynamisme qui se développe hors du giron de l'institution qu'il dirige. Guillaume Davot.
Très clairement, on le sent depuis plusieurs années déjà. Les deux grands exemples seraient l'ouverture du centre Camille Bloch en 2017 ou la réouverture du Siki Park, voilà, avec des investissements privés très très grands. Et puis à plus petite échelle, c'est vrai que cette année 2022, on aura l'inauguration d'un chemin de randonnée qui s'appelle la Via Bernard, qui démarre à Bellelay et qui se termine au col du Soustonne, donc qui traverse tout le canton de Berne en 20 étapes. Donc on a la chance d'avoir 4 étapes dans le Jura bernois. La maison de la tête de moine qui va louer des vélos électriques. Donc on a de nombreux projets de prestataires privés ou publics d'ailleurs, qui croient en l'avenir de la région d'un point de vue touristique et puis qui investissent des moyens financiers, des moyens humains et des moyens au niveau de la communication pour amener une diversité d'un point de vue touristique.
Ça veut dire quoi quand on est directeur de Jura bernois Tourisme? Ça veut dire qu'on peut s'asseoir, mettre les pieds sur le bureau et regarder les autres travailler?
Alors non, clairement pas, puisque finalement on fait partie prenante de tous ces projets que je viens de citer. Certains, on les a presque initiés. C'est notre rôle de pousser ce développement de projets touristiques. On peut en développer nous en propre. Mais finalement, la plus-value économique touristique, elle réside dans toutes les activités, qu'elles soient les hébergements, la restauration, les activités de loisirs. Et ces activités, elles sont créées et générées par des partenaires privés. Donc là, on a depuis 2 ans un service qui s'appelle le Talentis Lab, qui coach les porteurs de projets touristiques pour les professionnaliser puis amener ce développement et cette diversité. Donc non, clairement, on ne se repose pas, mais on appuie ces prestataires touristiques.
Un des propos recueillis par Claire Viget. La patience de plusieurs habitants de Monible-et-Châtelat est mise à rude épreuve depuis quelques jours. Une panne de téléphone et d'internet a été constatée vendredi dernier, un problème qui n'avait toujours pas été résolu aujourd'hui. Swisscom nous a livré des explications. Le géant de la communication confirme des perturbations dans les deux localités de la commune de Petit-Val. Une douzaine de clients seraient concernés. Cette panne est due à un câble de raccordement enterré qui est endommagé. Les travaux de réparation sont complexes et nécessitent beaucoup de temps. C'est ce qu'on nous a expliqué. Les clients concernés seront avertis par SMS. Une page va se tourner et une nouvelle inédite va s'ouvrir dans le Jura pastoral. Vicaire épiscopal depuis 2012, l'abbé Jean-Jacques Thoria a présenté sa démission au 31 juillet prochain. Il deviendra curé du vallon de Saint-Imier. Pour lui succéder, l'évêque Félix Gmür a nommé deux laïcs comme délégués épiscopaux, la théologienne en pastoral Marie-Andrée Beuret à 70% et le diacre Didier Béret à 30%. Un choix qui s'explique notamment par le manque de prêtres dans la partie francophone du diocèse de Bâle. Membre de l'équipe pastorale de l'espace Ajoie-Clos-du-Doubs, Marie-Andrée Beuret va donc prendre une fonction à haute responsabilité. Elle nous explique comment elle l'appréhende.
Avec crainte et tremblement, mais aussi avec envie. Et puis, je le prends comme un défi au service déjà de l'Évangile et puis de l'Église dans notre coin de pays.
Une femme à cette fonction, il y en a qui travaillent de plus en plus en Église, mais ça reste quand même une minorité. Qu'est-ce que ça représente ?
Pour moi, ça représente une chance. Et puis, c'est aussi les suites de tout ce qu'ont fait les femmes dans l'Église, dans notre région, depuis des dizaines d'années, qui ont commencé à s'engager dans des tâches particulières, déjà comme catéchistes, hein, il y a longtemps. Je pense aussi à toutes les personnes qui s'engagent jour après jour aussi pour que dans l'Église, tout le monde puisse s'investir et puis pas seulement des hommes prêtres.
Laïcs et femmes, est-ce que vous craignez qu'une certaine aile conservatrice de l'Église catholique voie d'un mauvais œil votre arrivée à cette fonction-là ?
Peut-être que certaines personnes seront surprises, peut-être que d'autres seront choquées. J'espère que dans un dialogue, on pourra aplanir les différences si c'est nécessaire. Moi, je suis ouverte à discuter avec tout le monde.
Le diacre Didier Béret va pour sa part épauler Marie-Andrée Beuret dans cette fonction de délégué épiscopal. L'actuel responsable de l'unité pastorale des Franches-Montagnes se dit heureux d'œuvrer aux côtés d'une femme, Didier Béret.
Elles sont précieuses, c'est une part de notre humanité qui est importante, ce sont des voix à entendre, c'est des sensibilités différentes aussi. On a été, au début de mon ministère, peut-être dans un monde exclusivement masculin, et puis on voit que l'arrivée des femmes dans les débats, elles sont importantes parce qu'elles ont d'autres points de vue, parce qu'elles voient les choses d'un autre côté, parce qu'elles ont été exclues longtemps des responsabilités importantes de l'Église. Et je trouve qu'on a gâché une partie importante de notre humanité en les mettant de côté. Et ça me réjouit que ce soit une femme aussi qui donne un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, qui soit là pour partager, prendre la responsabilité de cette tâche avec moi.
Un dossier réalisé par Raphaël Chalverat. À noter encore que le vicaire épiscopal de la région Berne-Jura-Soleure, Georges Schwickerath, sera associé à certains dossiers de la partie francophone du diocèse de Bâle qui nécessite l'implication d'un prêtre. Attaquer la publicité sur les cigarettes là où les jeunes se trouvent, c'est l'un des mots d'ordre de l'initiative sur la protection des mineurs contre la publicité sur le tabac. Les Suisses se prononceront dessus le 13 février prochain. En cas de refus, c'est un contre-projet moins restrictif qui entre en vigueur. Nous avons reçu ce matin dans notre studio le président du comité d'initiative et député socialiste biennois au Conseil des États, Hans Stöckli. Pour lui, le contre-projet manque le coche et ne cible pas suffisamment la jeunesse. Hans Stöckli.
Le problème, c'est que là où les jeunes se trouvent aujourd'hui, eh bien, l'interdiction n'est pas donnée. C'est-à-dire, surtout dans les réseaux. La publicité dans les réseaux est très, très efficace. Et on sait que l'industrie, malheureusement, utilise les moyens qui séduisent les jeunes. Mais aussi dans les kiosques, et surtout, quand il y a un concert, quand il y a un événement, eh bien, la publicité est tout omniprésente. Et là, la fréquentation des jeunes, elle est importante. Et aussi, par exemple, dans les médias gratuits. Le Bilbien, notre journal, dès le début, n'a pas fait de publicité pour le tabac parce que M. Cortesi, à l'époque, s'est rendu compte que la publicité a son effet. Et dans les médias gratuits, par exemple, il faut que les jeunes ne soient pas séduits par la publicité. Et le contre-projet, malheureusement, abandonne cette possibilité.
Et pour défendre le non à l'initiative, nous recevions aussi ce matin Natacha Pittet, membre PRR du Conseil de ville de Bienne. Elle n'est pas convaincue que ce soit la publicité qui incite un jeune à allumer sa première cigarette. Natacha Pittet.
Je pense que cette initiative va trop loin en interdisant complètement la publicité là où sont les jeunes. C'est clair qu'un jeune va rentrer dans un kiosque, mais s'il y va pour acheter un bonbon, une publicité pour le tabac ne va pas l'influencer.
Mais peut-être juste en quelques mots, vous êtes quand même pour laisser la publicité sur Internet, mais les jeunes passent quand même beaucoup de temps, comme l'a dit M. Stöckli, sur les réseaux sociaux. Vous ne trouvez pas que c'est justement là qu'il faut agir ?
C'est quelque chose qui pourrait être discuté, mais étant donné que la publicité sur Internet souvent est liée à la personne, est liée à des algorithmes, moi personnellement, par exemple, je n'ai jamais vu une publicité sur Facebook ou sur Instagram pour un produit de tabac. C'est clair que peut-être je ne les cherche pas, mais ça prouve aussi que si la personne ne cherche pas ce genre de produit, si un jeune ne va pas sur des sites qui ont un lien avec le tabac, il ne va pas recevoir de publicité non plus à ce sujet.
Un dossier de Diana Dacosta et vous pouvez retrouver le débat sur l'initiative Enfants sans tabac au complet en vidéo sur rjb.ch. Le Conseil fédéral cédera-t-il ce mercredi aux demandes insistantes formulées hier par les milieux de l'économie pour lever les principales mesures anti-Covid qui entravent encore la vie en Suisse ? Ce serait une surprise en rupture avec la ligne prudente et de compromis adoptée par le gouvernement depuis 2 ans. L'analyse à Berne de notre correspondant Serge Hubin.
Cher Conseil fédéral, ça suffit, levez immédiatement les mesures inutiles et disproportionnées que sont le certificat Covid pour les activités en Suisse, le télétravail, les quarantaines et les isolements. C'est l'appel insistant lancé hier à Berne par les milieux économiques, les PME, les restaurateurs ou les fitness. Comme il le fait depuis 2 ans, le Conseil fédéral devrait y rester sourd pour plusieurs raisons. Il a prolongé la semaine dernière les restrictions jusqu'à fin février et fin mars. Il n'y a pas eu depuis 8 jours d'évolution de la situation susceptible de le faire changer d'avis. La situation pandémique, justement, le nombre d'infections quotidiennes continue d'augmenter, de quoi maintenir la stratégie de la prudence. Le Conseil fédéral est adepte du compromis. Aux appels à lever les mesures répondent les experts scientifiques qui estiment prématuré un retour à la normale. Et contrairement à ce qu'affirme parfois Alain Berset quand il dit qu'il faut être flexible, le Conseil fédéral s'en tient à l'inverse à sa ligne de conduite et là, il a opté pour la prudence. Dernier élément, la loi Covid impose au Conseil fédéral de consulter les cantons et les partenaires sociaux avant de prendre ses décisions. Seule l'ordonnance pour indemniser les entreprises entravées par les mesures Covid est encore en consultation. La patience et la prudence devraient donc rester de mise pour quelque temps.
Et notez que le Danemark entend lever ses restrictions anti-Covid au 1er février, ceci malgré un nombre record de nouveaux cas. Le pays juge sa forte couverture vaccinale suffisante, annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Santé dans une lettre rendue publique.
Vous écoutez RJB, il est 12h28.
Sport. Cap sur les Jeux Olympiques pour les slalomeurs suisses. Après une dernière course décevante à Schladming, les 4 techniciens sélectionnés par Swisski vont se rendre à Pékin. Hier soir, dans la station autrichienne, Loïc Meillard, Ramon Zenhäusern, Luca Erni et Daniel Juhl n'ont pas pu figurer parmi les meilleurs. Très loin du vainqueur allemand Linus Strasser, les 4 hommes auront certainement à cœur de faire bonne figure pendant ces Jeux d'hiver. Dans une discipline qui ne réserve que des surprises depuis le début de la saison, aucun slalomeur n'a remporté 2 courses. Pour le Valaisan Daniel Juhl, l'épreuve olympique risque bien d'être un sacré spectacle car il n'y a pas de favori.
Ah non, alors là, pour les Jeux, bon courage à vous si vous avez rêvé à sortir un favori. Mais je pense que c'est ça qui rend ça excitant. On va arriver là-bas et vraiment tout sera ouvert. On ne connaît pas la piste, on ne connaît pas les conditions de neige. Et puis, vraiment, personne ne sait à quoi s'attendre. Et là, ce sera vraiment difficile de dégager un favori. Et on verra d'une fois qu'on sera là-bas.
Vous aimez ça, découvrir comme ça un peu à la dernière une piste, puis vous y adapter en très peu de temps ?
Oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un challenge qui, ce sera la même chose pour tout le monde. Après, on aura l'occasion d'aller là-bas pour s'entraîner quelques jours quand même, découvrir un petit peu cette neige. Mais c'est pareil pour tout le monde et là, je crois que ça n'avantage pas un coureur plus qu'un autre.
À un peu plus d'une semaine des Jeux, l'excitation commence à monter chez les athlètes. Pour Luca Erni, cela a mis un petit peu plus de temps qu'il n'avait pensé. Luca Erni.
C'est vrai que quand j'ai entendu tout ce qu'on devait faire là-bas aussi pour le Covid, je me suis dit ça va être dur. Et finalement, on a vu les habits qu'on allait recevoir. Et finalement, je pense qu'il y a vraiment le plaisir qui monte gentiment et je me rends compte de la chance que j'ai d'aller là-bas pour la Suisse.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Autriche, Jan Esler. Le slalom, messieurs, se tiendra le 16 février. Et puis chez les dames, après Lara Gut-Berami et Wendy Holdener, Michelle Gisin renonce aussi à se rendre à Garmisch-Partenkirchen où une descente et un super G de la Coupe du Monde sont prévus ce week-end. Elle a annoncé vouloir se préparer au mieux pour ces Jeux Olympiques. 12h30 sur RJB, merci de votre écoute et bon appétit si vous passez à table.